Quand on est venu me trouver pour m'inviter, j'ai tout de suite dit oui, parce que d'abord j'ai beaucoup aimé le nom de cette communauté, je trouvais ça très prometteur, et j'ai beaucoup aimé le thème, qui est évidemment effrayant, mais qui est peut-être le thème, qui est peut-être le thème de ma vie, enfin en tout cas sa quête. Et ce que j'ai toujours recherché à travers les œuvres que j'ai étudiées, en particulier en littérature persane, c'est précisément de voir comment on peut faire advenir en soi-même ce Dieu intime. Et les poètes mystiques persans, finalement, ne parlent pas d'autre chose. Et donc, ce thème me parlait tout particulièrement. Je ne sais pas si c'est pour ça qu'on m'a demandé de venir vous en parler. En tout cas, je parlerai à travers la voix de très grands mystiques qui, je crois, ont fait l'expérience de cette intimité divine dans leur propre âme et dans leur propre cœur. Mais ils sont revenus, tel le philosophe qui est sorti de la caverne platonicienne et qui a contemplé la lumière et qui après revient pour informer les autres. Donc ces poètes sont revenus pour nous en dire quelque chose, pas seulement nous dire quelque chose de ce Dieu intime, mais aussi, je crois, nous montrer le chemin qui évidemment est un chemin intérieur, même si parfois on en parle en termes de voyage. En tout cas, c'est un voyage qui se fait au plus intime de soi-même. Donc ils sont revenus pour nous dire comment faire ce cheminement. Et de même qu'ils m'ont nourri, j'essaye à travers la traduction, les présentations, et en tout cas à chaque fois que j'interviens, j'essaye de passer ce message, eh bien, que ces textes, je ne dirais pas m'ont transmis, mais continuent à me transmettre, puisque la littérature persane est un océan sans fin. Donc ce soir, je vous parlerai d'un mystique, d'un poète mystique du XIIe, XIIIe siècle, et on fera un voyage avec lui, qui est le voyage de l'âme vers, justement, la figure divine, pour se rendre compte que finalement la figure divine, on la porte peut-être en nous depuis le début du voyage, mais parfois on ne le sait pas. Et demain, je vous parlerai d'une mystique contemporaine qui a eu aussi une expérience du divin dans sa vie. Et elle a la particularité que je ne l'ai pas connue à travers ses textes d'abord, je l'ai connue d'abord en tant que personne. Et je vous parlerai donc beaucoup de rencontres et du fait que, certes, le divin advient au plus intime de soi-même quand on a longtemps cheminé, mais que souvent, ce qui permet de nous réveiller à cette présence du divin en nous-mêmes, ce sont parfois justement des rencontres. Et le thème de la rencontre, je crois, est tout à fait lié et tout à fait essentiel quand on parle du Dieu intime. Parce que justement, il se passe quelque chose à l'extérieur qui, en réalité, se reflète au plus intime de soi. Et ce n'est pas pour rien qu'on a besoin de l'autre pour se trouver soi-même. Et c'est un peu toutes ces idées que je vais essayer de développer à travers, le temps qui me sera donné, dans le temps qui me sera donné. Et puis, on m'a aussi demandé de vous faire une lecture, un récital, a-t-on appelé ça très joliment, enfin une lecture de poésie mystique. Et simplement là, je ne suis pas venue avec un musicien. Donc, s'il y a un musicien dans la salle qui a son instrument ou qui joue du piano, un ou une ou plusieurs, je vous invite à vous faire connaître tout à l'heure à l'issue de cette conférence parce que je trouve ça beaucoup plus vivant et beaucoup plus beau d'improviser dans un dialogue avec des musiciens quand on lit des poètes, des poèmes mystiques. Sinon, on fera autrement. Mais ce sera infiniment mieux si nous avons des musiciens parmi nous. C'est un appel que je lance. Je me permets. Et donc voilà, mais pourquoi cette lecture de poésie mystique? Parce que c'est ce que je disais, la poésie, il me semble que la poésie mystique, c'est vraiment le lieu, peut-être le seul, où on peut dire quelque chose de cet indicible qui est l'advenu du divin en soi, et en même temps, c'est un moyen pour le poète donc de dire ce qu'il a vécu et qui est indicible, et en même temps de réveiller dans chacun, dans tous ceux qui lisent ou qui écoutent cette poésie, peut-être quand on l'écoute, c'est encore mieux. Moi, j'ai eu le privilège d'écouter cette poésie persane lue par mon père avant de la lire avec mes yeux. Et c'est vrai que c'est un privilège inouï, parce qu'il se passe quelque chose dans la voix, dans l'oreille, dans la musique, dans cette vibration intérieure, qui est vraiment de l'ordre de l'éveil. Ça fait partie de ce que j'appelle la rencontre. Un poème, c'est... Quand on entre dans un poème, on rencontre aussi le poète, d'une certaine façon. Et ça peut créer des... Le poète est très souvent un guide spirituel tout à fait exceptionnel, puisqu'il parle directement au cœur. Et donc voilà, en fait, je vais vous faire un petit résumé de ma vie, en fait, à travers tout ce que je vais vous dire, parce que toutes ces œuvres m'ont profondément transformée, influencée, et continuent donc à me nourrir. C'est ce que j'essaierai de partager avec vous pendant ces 3 jours.
Merci. Je vous laisse la place.
Donc, du coup, on va pouvoir. On peut éteindre en fait la. Voilà. Je vais essayer de lire. Ça va aller, je vais pouvoir lire. C'est sûr que l'audition est importante, mais là, en l'occurrence, j'ai des belles images à vous montrer aussi. Oui ? C'est parce qu'on l'a éteinte ? Ah, pardon. Il faut le mettre comme ça. Ah, on ne peut pas le visser là ? D'accord. Ah ben voilà, ça va. Marhaba, ey hodhode hadi shode. در طریقت پیک هر وادی شده ای به سرحد سبا سیر تو خوش با سلیمان منطق و تیر تو خوش Sois bienvenu, ô Hup, oiseau de la guidance, toi en chaque vallée messagère du vrai. Ô toi la bienvenue au pays de Saba, ô toi qui en cantique parlais à Salomon. Ô toi, la confidente des secrets de ce roi, qui reçut à ce titre ta couronne de gloire. Afin que Salomon te dise ses secrets, il te faut retenir ton démon enchaîné. Une fois ton démon retenu en prison, tu pourras t'envoler vers le palais du roi. C'est ainsi que Farideddin Attar, poète du XIIe-XIIIe siècle de notre ère, qui vivait dans la ville de Neishapur, c'est-à-dire à l'est de l'Iran d'aujourd'hui. C'est donc ainsi que le poète Attar accueille la huppe qui va être une métaphore de lui-même dans son œuvre magistrale, Le Cantique des oiseaux. Je vais vous dire quelques mots quand même sur le Cantique des oiseaux et sur le poète, avant d'aller plus avant dans l'œuvre, mais je ne pouvais pas m'empêcher de commencer par cette bienvenue à la huppe, parce que, comme vous l'aurez constaté, le poète dit bienvenue, sois bienvenue ô huppe, oiseau de la guidance, toi en chaque vallée, messagère du vrai. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que pour Attar, la huppe est la métaphore du poète, et le poète n'est un vrai poète digne de ce nom que s'il est en même temps un guide spirituel et le messager du vrai. Alors, le messager du vrai, un vrai avec un V majuscule. Et je dois dire ici immédiatement que le mot pour dire vrai en persan, c'est hakikat. Et hakikat, en fait, vient d'une racine arabe qui est haq. Et haq, ça veut dire à la fois la vérité, la justice et Dieu. Ça veut tellement dire Dieu que le grand mystique de l'islam qui a été tué au 9e siècle, qui s'appelait Hallaj et qui a été le maître intérieur de Attar, il vivait au 9e siècle, donc il a été tué au 10e siècle, au début du 10e siècle. Il a été le maître intérieur de Attar, et ce Hallaj, donc qui est un soufi extrêmement connu, disait une phrase, dans des moments, il tombait dans des moments d'extase, et dans ces moments d'extase, il disait « Je suis le vrai, an al-haq ». Et Attar raconte plusieurs fois, dans plusieurs de ses œuvres, cette histoire de Hallaj, non que je me dois de vous mentionner à l'occasion de cette conférence, parce qu'il est l'emblème de ce que c'est que l'union mystique dans laquelle c'est pas seulement que le Dieu ou le divin se manifeste en soi comme une image dans la plus profonde, comme une présence dans sa plus profonde intimité, mais c'est aussi celui qui témoigne qu'en réalité il n'y a pas de différence, il n'y a pas de discontinuité entre notre être, l'âme, et l'être divin. Et il a été tué pour avoir dit cette phrase, parce que vous pensez bien que dans les religions officielles, c'est insupportable que quelqu'un puisse dire « je suis le vrai ». Et pourtant, il a dit à ses juges « c'est vous qui êtes les idolâtres, c'est vous qui ne croyez pas en Dieu, puisque vous dites « il est ». Si vous dites « il est », ça veut dire que vous êtes aussi et que vous êtes séparés de lui. Il ne faudrait employer qu'un seul pronom, soit « je », soit « tu », soit « il », mais en tout cas, on ne devrait employer qu'un seul pronom. Dès lors qu'on fait une différence entre « je »,« tu » ou « il », on sort du monothéisme absolu qui est de dire que tout est Dieu, et donc y compris moi. Et ce n'est pas un hasard si Attar considérait Hallaj comme son maître intérieur, son maître de guidance, son maître caché, et qu'en même temps, il commence sa bienvenue à la huppe en disant que la huppe est précisément la messagère du vrai. Ça veut dire qu'il est lui, Attar, le messager de cette vérité-là qui doit se révéler dans l'âme de chacun et l'amener à dire, comme Hallaj, je suis le vrai. Quitte à en mourir. En tout cas, on va pas mourir tout de suite, hein, on va d'abord faire un petit bout de chemin ensemble. Mais voilà, donc Attar, je ne vais pas en dire beaucoup de choses, d'abord parce qu'on sait très très peu de choses de sa biographie. Ce qui est important de savoir, c'est que donc il a vécu dans la ville de Neshapur, c'est-à-dire dans ce grand Khorasan qui a vu naître à partir du Xe siècle nos plus grands philosophes, poètes, mystiques, artistes et j'en passe. Donc il fait partie de ce creuset culturel proprement iranien qui a assimilé l'islam, mais qui en a fait quelque chose d'adapté à la culture persane, dans lequel, évidemment, l'islam iranien, l'islam de Attar, qui est rattaché au soufisme, c'est un islam qui a complètement habité aussi les religions anciennes de l'Iran, qui étaient des religions de la lumière et des religions de la manifestation. Toujours est-il que là, vous voyez une huppe, et justement, cette huppe, elle porte en elle le nom de Dieu, le nom de Allah. Pourquoi ? Parce que la huppe était réputée donc être la messagère en fait du roi Salomon. Ça, c'est pas dans la Bible, mais c'est dans le Coran. Et dans le Coran, le roi Salomon est évoqué très longuement comme un très grand roi, comme un très grand spirituel, comme quelqu'un qui a justement réussi à parler aux oiseaux en particulier, mais aussi aux fourmis, enfin à tous les êtres qui sont en apparence dénués de parole, parce qu'il connaissait le langage secret de tous les êtres du monde, parce qu'il avait, réalisé en lui-même la perfection de son âme. Et donc il avait comme messagère la huppe, et cette huppe a été la messagère entre le roi Salomon et la reine de Saba. Elle portait les messages d'amour entre ces deux grandes figures. Et en particulier, ce qui est important, c'est que la huppe a porté dans son bec le nom, l'affirmation de l'unicité de Dieu jusqu'à la reine de Saba pour la convertir au monothéisme, en quelque sorte. Ou, je n'aime pas beaucoup le mot de monothéisme, je préfère le mot d'unicisme, à l'idée de l'unicité divine. Et donc, la huppe joue un rôle très important parce qu'elle est à la fois messagère d'amour et messagère de la vérité. Et Hathor, donc, il a grandi dans une culture qui est celle de la littérature persane au XIIe siècle, où précisément il va y avoir une convergence en fait entre tous les thèmes amoureux profanes de la littérature persane et les thèmes mystiques du soufisme, influencé d'ailleurs par le bouddhisme, par l'hindouisme, car comme vous le savez, en Afghanistan actuel, il y avait énormément de vestiges bouddhistes, par exemple, donc parce qu'au XIIe siècle, il y avait encore une présence bouddhiste très forte. On est très très proche de l'Inde, c'est ça que j'insiste pour dire, c'est bien dans l'est du monde iranien, à la frontière de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Afghanistan. Et donc l'influence hindouiste, bouddhiste est très forte, de même que l'influence des religions anciennes de l'Iran, de même que l'influence des gnostiques chrétiens, et de même que l'influence de la mystique juive, comme on le voit dans toute la thématique liée aux grands rois juifs qui sont dans le Cantique des oiseaux. Donc, vraiment, le Cantique des oiseaux, enfin, toute l'œuvre de Hathor est un creuset dans lequel toutes les spiritualités, enfin, les spiritualités de toutes les religions qu'il connaissait de manière plus ou moins, évidemment, approfondie, selon les rencontres qu'il avait faites, toutes ces spiritualités vont converger pour créer ce que Hathor appelle déjà la religion de l'amour. C'est pour ça qu'il s'identifie en fait à la huppe, parce que la huppe, elle est à la fois dans sa chair même, ici on le voit dans l'image, hein, dans son corps même, une sorte d'attestation de l'unicité de Dieu, et en même temps, elle est celle qui va porter, qui va parler d'amour, qui va pouvoir échanger pour nous dire en fait ce que c'est que l'amour. Et donc ce Hathor, la légende nous dit qu'il était apothicaire à Nishapur, c'est fort possible puisque le mot Hathor veut dire apothicaire et que le nom Hathor est un nom qu'il s'est choisi comme tous les poètes persans qui se choisissent un nom de plume sous lequel ils deviennent connus. Donc c'est pas son nom de naissance, hein, c'est vraiment le nom qu'il s'est choisi lui-même. Alors était-il vraiment apothicaire ou pas? C'est possible. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a toujours considéré que sa poésie ne devait pas être adressée au roi et donc il ne devait pas gagner d'argent avec la poésie. Il considère que les gens qui gagnent de l'argent avec la poésie, c'est comme les maîtres spirituels qui gagnent de l'argent avec leur enseignement, c'est-à-dire que c'est contraire à l'essence et à la vérité de l'enseignement spirituel que d'en faire un objet de marchandise commerciale. Et donc, il était indépendant financièrement et peut-être qu'il était en effet apothicaire. Ce qui est certain, c'est que quand il s'est donné ce nom de plume, ce n'est pas pour dire qu'il exerçait ce métier. C'est parce que, et on va le voir, il se considérait comme un thérapeute de l'âme. Il se considérait, et il était un maître spirituel, donc il connaissait les maladies de l'âme et il savait comment les guérir. Et par ailleurs, Hathor veut aussi dire le parfumeur. En fait, c'était la même fonction, celui qui vend des parfums, mais aussi l'herboriste, le thérapeute, enfin l'apothicaire, il faisait un peu tout ça à l'époque médiévale. Et il va très souvent parler du parfum de son œuvre, en particulier dans l'épilogue du Cantique des oiseaux, dans lequel il va dire que justement, il a répandu le parfum de l'amour dans l'univers entier grâce à son œuvre, le Cantique des oiseaux. Donc, la question du parfum sera aussi très importante dans son œuvre. Et ce n'est pas un hasard. Quand il dit qu'il a répandu le parfum de l'amour dans l'univers entier, c'est parce qu'il témoigne d'une expérience que peut-être certains d'entre vous ont déjà eue, c'est-à-dire que quand on est dans une connexion intérieure avec ce qu'on peut appeler peut-être l'invisible, ou en tout cas le divin, ces états, les états que l'on peut traverser, sont marqués par des parfums particuliers. Et que l'âme, de même que l'âme a une vue, une ouïe, un toucher, elle a aussi un odorat. Et qu'avec l'âme, alors ça j'ai fait qu'une seule fois l'expérience moi-même en réalité, mais enfin beaucoup d'autres grands mystiques ont fait l'expérience de manière répétée, que de temps en temps, cette la présence, au bout de l'oraison, la présence peut avoir un parfum de rose, de jasmin, de musc, selon le parfum particulier de cet état particulier. Mais ça, je n'en parlerai pas beaucoup parce que c'est quelque chose dont on peut parler que si on en a l'expérience. Et donc, je vous laisse à cette expérience. Alors, donc, je vous disais que Hathor était le poète qui était en même temps le guide. C'est-à-dire, et il va souvent faire référence dans son œuvre à un personnage qu'on appelle Khezr, et qui est un personnage cité dans le Coran comme ayant été le maître initiatique du prophète Moïse. Khezr, ça veut dire le verdoyant. Et Khezr, c'est le symbole du guide intérieur que chacun porte en lui-même. Pourquoi ? Parce qu'il est le gardien de la source de la vie éternelle, et que la source de la vie éternelle, nous dit Hathor dans son œuvre, c'est précisément la connaissance de la vérité. Et que cette source de la vie éternelle ne se trouve que dans les ténèbres les plus profondes, au fin fond de la montagne, à l'intérieur, dans les ténèbres, dans le noir. Quand on arrive, quand on a traversé ces ténèbres intérieures, on arrive à un point luminescent, à une source d'eau qui est luminescente, qui en réalité est la vérité faite eau. Et à ce moment-là, quand on a traversé les ténèbres, on peut, le khezr intérieur, le guide intérieur, peut vous faire boire de cette eau. Et à ce moment-là, on acquiert l'immortalité, qui n'est évidemment pas l'immortalité du corps, mais l'immortalité de l'âme. Et nous dit Hathor, parce que la seule chose qui puisse rendre l'âme, qui puisse réaliser l'immortalité et la lumière de l'âme, c'est précisément de connaître la vérité. Et il n'aura pas d'autre projet pour son œuvre que cela, c'est-à-dire de faire boire à ses auditeurs, de les faire traverser en fait les ténèbres, leurs propres ténèbres, pour finir par boire à la source de l'eau de la vie. Mais là, je vous ai posé donc le cadre général de cette œuvre du Cantique des Cantiques. Je vais maintenant vous parler quand même de la structure de l'œuvre, qui est quand même très importante, puisqu'elle commence par le commencement, à savoir une louange du Créateur. Au nom de Dieu, matrice de clémence et de miséricorde, loué soit-il le Saint Créateur de toute vie, lui qui a donné vie et foi à la poussière, lui qui fonda sur l'eau l'assise de son trône, et sur le vent qui fuit toutes les vies terrestres. Lui qui donna aux cieux la domination, lui qui fit de la terre la plus humble station, lui qui donna à l'un mouvement perpétuel et à l'autre un repos immobile et constant. Il éleva le ciel comme on monte une tente, il l'éleva sans pieu et y plaça la terre. Il fit en 6 jours apparaître 7 planètes, et créa de 2 lettres les 9 coupoles célestes. Je ne vais pas vous lire tout parce qu'il y en a, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de vers qui louent le Seigneur. Et c'est une façon tout à fait habituelle et classique de commencer une œuvre poétique. Alors, l'œuvre de Hathor, le Cantique des oiseaux, en persan Manteroteij, est composée dans un style, dans un genre, pardon, qu'on appelle le genre Masnavi en persan. Ça veut dire en fait un long poème, un long récit en vers, et avec une rime interne, et c'est le même maître tout du long. Et la poésie persane se présente en distiques. Cette œuvre compte 4724 distiques, et comme je l'ai traduite en vers français, ça correspond à peu près 9500 vers français. 4 ans de travail. Mais quelle joie, mais quel bonheur, je dirais, de travailler 4 ans sur cela, parce que, je ferai juste une parenthèse, parce qu'en fait, jamais on ne lit aussi bien une œuvre que quand on la traduit. Et jamais on ne s'en nourrit autant que quand on essaye de l'expliquer et de la transmettre à d'autres. Et je dois vous dire que j'ai travaillé 4 ans dessus une première fois pour une première publication, après j'ai retravaillé 1 an dessus pour une deuxième publication, parce que la première fois c'est sorti avec les miniatures que je vous montre ce soir, la deuxième fois c'est la version texte seule, avec des notes qui est sortie. Et encore cette année, donc ça vient de sortir, mais cette année, j'ai encore étudié l'œuvre avec mes étudiants et j'ai encore découvert de nouvelles choses. Et c'est le propre des grandes œuvres, je crois, que d'être sans cesse, de vous apprendre sans cesse des choses nouvelles. Et d'ailleurs, Hathor le savait, puisque lui-même disait « Mon œuvre porte en elle une vertu étrange, c'est que plus tu la lis, plus elle est généreuse. Plus tu pourras la lire, sans cesse y revenir, et plus à chaque fois tu goûteras ses mérites. Bon, » ça, c'était juste une parenthèse pour vous dire que c'était un... travailler sur la littérature persane, c'est quand même un immense privilège. Donc, ça commence par une louange de Dieu, et surtout une louange du Dieu créateur, source de tout ce qui est. C'est pourquoi il dit « Il créa tout à partir de deux lettres ». Ça, c'est une donnée coranique, mais aussi biblique, comme vous le savez, puisque Dieu a dit que cela soit, et cela fut. Et en fait, en arabe, c'est « kon fayakon ». Et « kon », il y a deux lettres, « soit ». Ça veut dire que cela soit. En fait, en arabe, c'est plus concis qu'en français. Pour dire que cela soit, on dit kon. Donc, comme ça, il y a deux lettres. C'est pour ça qu'il dit qu'il a créé donc le monde sur deux lettres. Mais ce n'est pas pour rien qu'il commence par cela. Parce que le voyage dont il va nous parler, le voyage des oiseaux que je vais vous raconter, en réalité, est une quête de Dieu. Mais là, qu'est-ce que la quête de Dieu, si ce n'est une quête des origines? Donc, c'est pas seulement parce que c'est un passage obligé dans tous les poèmes de commencer par une louange de Dieu qu'il commence par une louange de Dieu. Sa louange de Dieu est particulièrement longue et particulièrement étudiée parce qu'il sait très bien que si on ne connaît pas l'origine, on ne connaît pas non plus sa destination. Et que de ce qu'est ce Dieu dont il va chanter les louanges dépendra aussi la direction que prendront bien sûr les oiseaux. Et en même temps, lorsqu'il dit par une parole, Dieu a fait être le monde, c'est une façon aussi de sublimer l'acte poétique comme étant l'acte créateur par excellence. Presque comme si ça réactivait cet acte créateur divin que de citer donc les attributs divins, que de redire que cela soit. C'est une façon de dire que cela soit dans l'œuvre, que cela soit dans celui qui le lit. Donc c'est une façon de réactiver à l'intérieur de soi-même, l'acte créateur divin. Ensuite, il va faire une louange de tous les prophètes, de tous les grands prophètes bibliques, et il va terminer donc par une louange du prophète Mohammed, et en particulier par une évocation de son ascension céleste, qui est là aussi un passage obligé, normalement au début de chaque... long poème comme ça, il y a un petit passage pour glorifier le prophète de l'islam et puis dire qu'il a fait son ascension céleste. Mais chez Hathor, à nouveau, ce n'est pas du tout juste par ornement qu'il fait ça. Il le fait parce qu'il a une idée très précise dans la tête et les métaphores qu'il emploie nous le montrent bien. Pourquoi ? Parce que là aussi, l'ascension du prophète, c'est juste une allusion dans le Coran qui dit, voilà, en une nuit parmi les nuits, le prophète monta de Jérusalem jusqu'au ciel, et là, il vit le trône, il s'approcha du trône divin à la distance de deux flèches. De cela, il y a toute une littérature de l'ascension nocturne, ou l'ascension céleste du prophète Mohammed, qui s'est développée. Et en particulier, la légende dit que donc le prophète Mohammed a d'abord été transporté de la Mecque à Jérusalem, d'où l'importance de Jérusalem pour les musulmans, parce que évidemment ils n'ont pas compris que quand il est transporté de la Mecque à Jérusalem, il ne s'agit pas de la Jérusalem terrestre, mais bien évidemment de la Jérusalem céleste, de la dimension, spirituelle de ce que représente Jérusalem. Et de là, donc, il a fait cette ascension et il a traversé les sept cieux. On va voir que les oiseaux vont aussi traverser sept vallées. Ce n'est pas pour rien que Hathor nous dit ça au début. Il a traversé les sept cieux en chevauchant une sphinge que vous voyez ici, c'est-à-dire une jument à tête de femme qui s'appelle Boraq. Ça veut dire là, l'éclair. Et donc, il a traversé tous les sept cieux, comme vous le voyez. Vous voyez là qu'il a dépassé le ciel du soleil, par exemple, et qu'il est arrivé dans l'univers des anges. Et vous voyez que les anges, en fait, le célèbrent, ils lui apportent toutes sortes de cadeaux parce qu'ils le reconnaissent comme ayant accompli, en fait, le sommet de l'ascension spirituelle et celle de l'âme. Et que donc il est arrivé jusqu'au trône de Dieu ainsi. Alors retenons bien ces mots, hein, les sept cieux, le trône de Dieu, parce que tout ça on va le retrouver dans le voyage des oiseaux. Pourquoi Atoll nous dit ça? C'est pour nous dire, et il le dit très précisément, il dit en réalité c'est pas du prophète historique que je vous parle, c'est de cet être qui avait en lui, qui est l'incarnation, il dit bien l'incarnation. Il y a des gens qu'on a tués hein, dans le monde musulman pour avoir prononcé le mot incarnation. Donc, il est l'incarnation de la lumière divine et qu'en réalité, il est une métaphore de tout humain. Tous les êtres humains portent en eux la lumière divine et la capacité, vous voyez comme il est entouré de lumière dans cette miniature, et tous portent la capacité en unissant leur dimension masculine à leur dimension féminine. Ce n'est pas un hasard s'ils chevauchent une jument. C'est dit précisément que c'est une jument, ce n'est pas un cheval. Donc, en réunissant le masculin au féminin et en faisant cette ascension que lui a faite et que chacun peut faire, eh bien, on arrive jusqu'au seuil du trône divin, comme va nous le prouver, si on peut prouver ces choses-là, le voyage des oiseaux. En tout cas, comme va nous le montrer le voyage des oiseaux. Alors ça, c'est encore une autre illustration. Je reviendrai après sur cette idée des anges qui adorent, qui sont là presque en adoration, en fait, devant le prophète Mohammed. On va voir tout à l'heure que les anges étaient aussi en adoration devant Adam. Ça veut dire très clairement que Adam et le prophète Mohammed sont associés, et qu'ils sont des archétypes, en fait, de l'humain, de l'être humain. Mais, voilà, j'aime particulièrement cette image, avec ces nuages dorés, et les anges qui regardent là-haut comme un peu des voyeurs, comme s'ils regardaient une scène un peu interdite, mais c'est une scène un peu interdite, parce que, nous dit Atoll, les anges n'ont pas accès à ce que le prophète Mohammed a vu à la fin de son ascension. Les anges regardent de loin quelque chose qui échappe totalement à leur capacité. Et on va voir ce que c'est que ce quelque chose tout à l'heure. Et en plus, d'ailleurs, le récit en fait, de l'ascension nous dit bien qu'il était accompagné de l'archange Gabriel pendant toute son ascension, et puis arrivé à la fin, au bout du septième ciel, l'archange Gabriel s'est retiré, parce que même lui ne pouvait pas aller aussi près que Mohammed est allé, donc que tout être humain peut aller aussi proche du trône de Dieu. Même l'archange Gabriel n'a pas accès à cette proximité-là, à cette intimité-là. Parce que cette proximité par rapport au trône de Dieu, qui restera toujours quand même à la distance de deux flèches, c'est aussi ce qu'on appelle en littérature persane l'alcôve des noces. C'est-à-dire, c'est le lieu intime de l'intime auquel l'âme peut accéder. Mais racontons quand même l'histoire du Cantique des oiseaux. Pourquoi le Cantique des oiseaux? Peut-être que vous avez entendu le titre de cet ouvrage sous le nom en français de « La conférence des oiseaux ». Je vous recommande d'oublier cette traduction qui est mauvaise et fautive. Bien qu'elle ait donné lieu à un très beau spectacle de Peter Brook, mais la conférence des oiseaux, c'est vraiment une faute. C'est une mécompréhension de la signification du persan. En plus, ça fait penser à la conférence de Yalta et tout ça, c'est un peu bizarre. Parce qu'évidemment, c'est conférence dans ce sens, hein, c'est dans le sens réunion, bien sûr. Alors, vous l'avez peut-être entendu aussi, vous avez peut-être aussi entendu un autre titre, qui est celui que lui a donné son premier traducteur en français, Garcin de Tassi, c'est « Le langage des oiseaux ». Là, vous pouvez tout à fait vous souvenir de ce titre parce qu'il est parfaitement juste. C'est exactement ce que signifie « manter au terre ». Littéralement, « manter au terre », est une expression qui vient du Coran et qui veut dire le langage des oiseaux. Et d'ailleurs, c'est une expression qui est utilisée par le roi Salomon, qui dit « j'ai reçu l'enseignement du langage des oiseaux », qui est un langage mystérieux auquel n'accèdent que les âmes parfaites. Alors, vous allez me dire, pourquoi moi j'ai dit le cantique des oiseaux ? Et bien justement, j'ai dit le cantique des oiseaux parce que c'est une expression coranique, donc ça sonne sacré pour une oreille persane, pour une oreille musulmane d'ailleurs, quelle qu'elle soit, puisque l'expression est arabe, ça fait penser immédiatement au roi Salomon, parce qu'on sait que c'est le roi Salomon qui connaissait ce mantra-protège. Et puis, on sait aussi que le chant des oiseaux, d'abord est un chant, le langage des oiseaux c'est un chant, d'une certaine façon un cantique, et enfin, le cantique des oiseaux d'Attar est, de l'aveu du poète lui-même, un chant d'amour du début jusqu'à la fin. Par conséquent, il m'a semblé que le cantique des oiseaux permettait de rendre tout cela à la fois. Ça fait penser au roi Salomon, ça fait penser à l'amour, ça fait penser à un texte sacré, ça fait penser à un chant. Et d'une certaine façon, c'est moins littéral que le langage des oiseaux, mais c'est plus juste. C'est bizarre, parfois en étant moins littéral, on est plus juste. Mais bon. Alors, voici donc... Après le prologue et les louanges d'usage dont je viens de vous parler, le début donc du cantique des oiseaux. Le début, c'est justement une réunion des oiseaux. C'est pour ça qu'on l'a appelé la conférence des oiseaux, mais ce n'est pas du tout le sens du titre. Et en effet, tous les oiseaux arrivent et chacun est accueilli par le poète, donc le premier étant la huppe, qui est accueilli par le poète. Et puis après, il y en a d'autres. Mais surtout, voici ce qui se passe. Tous les oiseaux du monde, un jour, se réunirent, oiseaux de toute espèce, connus ou inconnus, et se dirent entre eux. Nul ne voit ni ne vit aucun pays au monde sans un roi à sa tête. Peut-être pourrions-nous... Pourquoi notre royaume n'a point de souverain ? Il faut que cela cesse, nous en sommes certains. Peut-être pourrions-nous unir tous nos efforts et nous aller trouver enfin sa majesté. Ils se retrouvèrent donc tous en un lieu commun pour commencer leur quête de l'oiseau souverain. Et là, on a déjà quelque chose de très important. C'est que les oiseaux cherchent leur roi. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le dieu que Mohammed voit à l'issue de son ascension est assis sur un trône. Et le Coran ne cesse de dire que Dieu est le souverain des mondes et qu'il est assis sur un trône et que son trône est posé sur les airs ou sur l'eau, selon les traditions. C'est-à-dire que, évidemment, la personne royale du divin est ici très évidemment mise en évidence, sachant que les oiseaux sont depuis toujours, depuis la plus haute antiquité, les symboles de l'âme, puisque l'âme est un être ailé, comme le sont donc les oiseaux, que ce soit dans les tombeaux égyptiens ou dans les représentations dans l'Iran antique, à Persépolis, etc., dans les tombeaux des rois de Perse, par exemple, toujours on représente l'envol de l'âme du souverain sous la forme de l'envol d'un oiseau. Et donc, c'est presque même pas une allusion, c'est une métaphore évidente des âmes humaines qui se réunissent et qui disent, voilà, il faut que nous trouvions notre roi. Parce que sinon, on est perdu. Il faut absolument qu'on sache qui est notre roi. Et à ce moment-là, la huppe vient et leur dit que, en fait, elle connaît leur souverain. Alors là, vous voyez la réunion des oiseaux. Là, c'est un détail de ce que je vous ai montré tout à l'heure. Et vous voyez, je ne sais pas si vous la voyez, la huppe. Elle est pour vous, elle est à droite, là, avec sa petite tête couronnée. Donc, en fait, la huppe, c'est une petite... C'est une sorte de petit roitelet. Et elle porte la couronne royale, pas parce qu'elle est elle-même un roi, mais parce qu'elle est la messagère du roi. Et on y fera souvent allusion. Mais voilà ce qu'elle leur dit. Si vous devenez mes compagnons de route, vous trouverez accès à son intimité. Il faut vous libérer de votre égocentrisme. Subirez-vous longtemps votre absence de foi ? qui renonce à sa vie gagnera sur lui-même dans la voie de l'aimer qui est source de vie. Il sera au-delà et du bien et du mal. Donnez donc votre vie et entrez dans la danse qui, à ce seuil royal, finit en révérence. Oui, l'être souverain existe, être sublime, sa demeure se trouve par-delà le mont Qaf. C'est une montagne mythique. Son nom est la Simorgh, la majesté suprême. Elle est proche de nous et nous sommes si loin. Elle repose au sanctuaire de la gloire. Son nom est au-delà de ce que peut la langue. Plus de 100 000 voiles recouvrent sa splendeur, des voiles de lumière et des voiles de ténèbres. Dans les deux mondes, personne ne pourrait prétendre avoir même un peu part à l'être de Simorgh. Elle est, et pour toujours, majesté absolue, submergée dans la gloire de sa magnificence. Là où elle est sans fin. Comment alors l'entendement ou la sagesse pourrait l'atteindre? Beaucoup de choses très importantes dans ce début de discours de la Huppe. Je ne vais pas vous lire tout le discours, qui est très intéressant aussi et qui fait écho à, ce que je, à la louange de Dieu qui était au début. C'est-à-dire qu'elle va dire que la Simorgh, en réalité, c'est l'être souverain, c'est l'être créateur, c'est le roi de tous les univers, et en même temps, c'est l'inaccessible absolu. Mais malgré ça, elle a quand même des mots pour dire ce qu'est cet inaccessible absolu. Mais ce qui est très intéressant ici, c'est qu'elle dit « elle existe, elle est sublime, mais elle est voilée, elle est inaccessible. Pourtant, moi je connais le chemin et je vais vous emmener. » Et mais dès le début, elle leur dit « mais pour pouvoir y aller, il faut renoncer à soi-même. » L'égocentrisme, à sa vie même, tout ça, ça veut dire renoncer évidemment à l'ego. Ça veut dire mourir avant de mourir, selon l'injonction du prophète Mohammed lui-même. Dans une de ses paroles, il disait « mourez avant de mourir ». Et en fait, tout le cantique des oiseaux sera aussi une méditation sur ça. Je vous l'ai dit, on est à la recherche de la source de la vie éternelle, mais pour accéder à la vie éternelle, il faut d'abord mourir à soi-même. Et c'est ce qu'elle leur dit ici. Et en même temps, elle leur dit que la Simorgh existe. Alors ça, c'est une représentation de la Simorgh. Là, j'ai commencé par le détail, parce que pour vous montrer que la Simorgh est un être évidemment irréel, enfin je veux dire c'est pas un oiseau qui existe, c'est un oiseau mythique qui existe déjà dans l'Avesta, le texte sacré des Iraniens anciens, des Zoroastriens, et dans l'Avesta cet oiseau s'appelle Saenamerga, et dans l'Avesta il y a des genres, dans la langue avestique qui est une langue uniquement sacrée, c'est la langue sacrée de l'Avesta, c'est tout, c'est une langue qui est utilisée que pour les textes sacrés. Donc, il y a des genres, il y a du féminin et du masculin. Et là, c'est bien la Saenamerga. En persan moderne, quand je dis moderne, c'est le persan qui est né à la fin du 9e siècle quand même, enfin, c'est ce qu'on appelle le persan moderne, le persan de Hathor, il n'y a pas de genre. En sorte que quand je dis mange avec un E, je dis en persan à la fois il mange ou elle mange. En fait, on ne peut pas le savoir. Quand je dis bien-aimé, je ne sais pas si c'est bien-aimé et eux ou bien-aimé et. On n'a pas de genre. Vous remarquez, ça simplifie pour la grammaire. Mais enfin, ça complique pour la compréhension de la littérature mystique. Beaucoup, tous les traducteurs ont traduit Simorgh par le Simorgh. Et ils ont argué qu'on dit le Simorgh parce que Simorgh, c'est Dieu, et que Dieu, dans la tradition musulmane, dont Hathor faisait partie, c'est Allah, donc il est masculin. Le mot Allah est employé une seule fois dans tout le cantique des oiseaux, c'est même pas dans le poème, c'est dans ce que je vous ai lu au départ, quand il cite le Coran. Donc évidemment, il commence son livre, comme on commence tout livre, en disant « Bismillahir Rahmanir Rahim », la formule coranique bien connue, que l'on traduit habituellement par « Au nom de Dieu, le très miséricordieux et le très clément ». Et que moi j'ai traduit, ça ne vous aura peut-être pas échappé tout à l'heure, au nom de Dieu, matrice de clémence et de miséricorde. Et j'ai fait exprès de dire matrice de clémence et de miséricorde, car Rahman et Rahim, que l'on traduit très justement par miséricordieux et clément, viennent d'une racine arabe qui veut dire la matrice, encore aujourd'hui en persan, pour dire l'utérus, on dit Rahem. Donc c'est évident. Pour les Arabes du 7e siècle, le lien est absolument évident. Quand on dit miséricordieux, on dit matricien. Et je crois que ce n'est pas un hasard. Et que c'est pour ça que la Simor, c'est la Simor. Parce qu'elle est à la fois le roi et la matrice. Pour preuve, je dirais que dans toutes les autres œuvres de la littérature persane, dont le grand livre des rois qui était la référence de Hathor, une des grandes références de Hathor, la Simor est une mère qui pond des œufs et qui recueille les humains abandonnés dans son propre nid. Elle est une matrice et une figure éminemment maternelle. Et d'elle, d'ailleurs, est né l'univers entier. Et là, c'est l'arbre cosmique qui représente en fait toute la création. Vous aurez remarqué qu'il y a un dragon qui est le pendant, le contraire en fait. Vous voyez, autant la Simorgh, elle est en haut, le dragon est en bas. Et là, le dragon est en train de, essaye de monter vers Simorgh parce que c'est c'est le pendant ténébreux de l'être de l'oiseau lumière. Parce que la Simorgh est un oiseau solaire et un oiseau de lumière. Et donc, cette lumière est très importante, et le féminin aussi, j'y tiens. Et donc, je dirais tout au long de la traduction, la Simor, c'est le roi. Ce n'est pas par ignorance de la grammaire française, c'est par choix délibéré de montrer qu'en persan, justement, les deux se rejoignent. Alors, cette Simor, nous dit la Huppe, voici comment elle s'est manifestée dans le monde. Là, vous voyez que le fait qu'elle soit au-dessus de l'arbre cosmique nous montre qu'en fait, c'est d'elle que vient toute la création. La première manifestation de Simor advint chose étonnante en Chine et dans la nuit. En plein pays de Chine, elle laissa choir une plume, et c'est le monde entier qui en fut bouleversé. Chacun conçut en lui une image de la plume, et sur elle bâtit un monde et un chemin. En Chine, cette plume est toujours exposée, d'où l'ordre de chercher la science jusqu'en Chine. Si l'image de sa plume n'était manifestée, il n'y aurait pas au monde ce tumulte incessant. Tout ce qui est la trace de sa splendeur. Ça, c'est très important. Tout ce qui est la trace de sa splendeur. Tout n'est que le reflet de l'image de sa plume. Comme sa description n'a ni début ni fin, à quoi sert de parler? Il faudrait ne rien dire. Et quiconque parmi vous est homme de la voie, qu'il prenne le chemin, qu'il vienne et qu'il avance. Pourquoi la Simor apparaît en Chine? Parce que, comme je vous l'ai dit, la Simor est un oiseau solaire. Donc, elle apparaît à l'Extrême-Orient, là où le soleil se lève. En même temps, la Chine, c'est le pays des images et des idoles. J'en reparlerai demain, plus longuement. Mais en tout cas, c'est le pays des images de la splendeur et des couleurs, puisque les Chinois étaient considérés comme les grands peintres de l'époque médiévale. Et en même temps, la Chine, c'est là que se trouve la princesse de Chine, dont tous les princes de la littérature persane vont tomber amoureux en regardant juste son portrait, c'est-à-dire sa représentation. Ce que nous dit ici Hathor, c'est que Simor est à l'origine de toutes les formes, de tout le visible et de toutes les couleurs, bien que la Simor soit sans forme et sans couleur. Mais elle a laissé choir une plume. Elle est comme l'arc-en-ciel, si vous voulez, c'est-à-dire qu'elle contient en elle toutes les couleurs, ce qui fait qu'en fait, elle-même, elle est insaisissable. Il faut qu'elle laisse choir une plume, il faut qu'elle crée l'univers entier. Le ciel et la terre et les étoiles et tous les astres et toutes les beautés du monde et les fleurs et les animaux et les hommes, pour que on puisse voir quelque chose de sa manifestation. Parce que par essence, elle est totalement, évidemment, invisible, indicible, insaisissable et inaccessible. D'ailleurs, la Huppe dit, il faudrait ne pas en parler. Mais enfin, je vais quand même vous en parler. Pourquoi je vais quand même vous en parler? Parce que l'image, c'est de la beauté. Et donc l'évocation poétique, qui est aussi une production d'image, c'est de la beauté. Et que la beauté est peut-être le lieu, enfin, est peut-être ce dont la contemplation peut permettre à l'âme de remonter vers ce qui ne peut pas se contempler. C'est ça le grand paradoxe qui va être développé dans toute l'œuvre de Hathor et dans le Cantique des oiseaux en particulier. Et évidemment, c'est d'une efficacité redoutable, la beauté est d'une efficacité incroyable, puisque de cette évocation de la splendeur royale, les oiseaux sur le champ furent tout en émoi. Leur âme submergée du désir de la voir, ils étaient agités d'une impatiente fièvre. Décidés à partir, ils avancèrent tous, déjà amoureux d'elle et ennemis d'eux-mêmes. Mais comme le chemin semblait long et sans fin, chacun songeait aussi aux souffrances à venir. Et bien que cette voie fût leur salut certain, chacun, pour l'éviter, se trouva une excuse. Alors, et c'est comme ça qu'en fait l'histoire va vraiment commencer. L'histoire, ça va être l'histoire des excuses des oiseaux, ça veut dire de nous tous, pour ne pas avancer sur le chemin qui nous semble parfois un peu difficile. Mais avant de parler des excuses des oiseaux, je voudrais attirer votre attention sur le fait que la seule évocation de la simorgue, en fait, rend les âmes complètement enivrées. Enfin, les oiseaux. Lapsus révélateur, c'est pareil. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, c'est une allusion au fait, et plusieurs fois dans le texte, Hathor fera allusion à cela, à la création même d'Adam, qui a reçu en lui la lumière divine. Il a reçu même, dit le Coran, l'expire de Dieu. Il y a une phrase très très intéressante dans le Coran où il dit « Nafartu fihi min ruhi », j'ai insufflé en lui de mon esprit. Et donc Adam a en lui quelque chose de la beauté incandescente du divin, mais simplement en descendant dans le corps, l'âme a oublié cela. Et l'utilité de la beauté, de l'évocation poétique ou des images, c'est que ça réveille dans l'âme le souvenir de la beauté qu'elle a contemplée dans les temps primordiaux, alors qu'elle n'était pas encore descendue dans le corps, et qu'elle a pu contempler la lumière divine en elle-même, je veux dire, parce qu'elle était elle-même de même nature que la lumière divine. Et d'ailleurs, Hathor évoquera cela. Là, on voit, par exemple, dans cette miniature, le fait que les anges se sont mis à adorer Adam parce qu'ils ont reconnu dans Adam quelque chose dont eux-mêmes étaient dépourvus, on en a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire le souffle luminescent de Dieu lui-même. Et seul de toute la création, Adam a reçu cela. Et étrangement, en recevant cela, il a aussi reçu le don de la parole. C'est pourquoi les humains réalisés, quand ils comprennent le langage des oiseaux, ils peuvent le transcrire en langage humain, parce qu'ils ont les mots qui ont été mis dans leur âme par Dieu lui-même au temps de la création. Donc, c'est la raison pour laquelle les anges se prosternent devant Adam. Et que, globalement, la beauté, et en particulier la beauté humaine, à partir du moment où on la considère comme étant théophanique, évidemment, je ne parle pas des mannequins qui défilent sur un podium, mais enfin, la beauté, je veux dire, archétypale d'un visage humain est considérée comme un lieu de contemplation. Le visage de beauté, en particulier le visage de la dame de beauté, est à la fois une source de révélation et une source de contemplation. Alors, à bien des égards, comme je vous l'ai dit, la princesse de Chine, c'est un personnage récurrent de la littérature persane, et elle représente en fait un élément de la théophanie. Elle est une présence théophanique, et le fait que les princes tombent amoureux du portrait, ça veut dire que c'est une métaphore du fait que les âmes tombent amoureuses de la beauté de Dieu reflétée dans sa création, et en particulier donc dans un visage de beauté qui porte en lui la théophanie. Et là, on le voit dans cette miniature qui représente la dame de beauté de manière extrêmement claire, parce que la dame de beauté ici est une des manifestations d'ailleurs de la simorgue, en quelque sorte. Pourquoi ? Parce que on sait clairement, quelqu'un qui voit cette miniature sait clairement qu'il s'agit d'une théophanie, parce que d'abord, et pour commencer, elle est située dans une niche de prière. Pour ceux qui connaissent l'architecture islamique, d'ailleurs surtout pour ceux qui ne la connaissent pas, j'explique ce que c'est qu'une niche de prière, c'est dans toutes les mosquées, il y a ce qu'on appelle le mihrab, qui est en fait qui est décoré comme ça, et qui indique la direction de la Mecque vers laquelle il faut se tourner, les musulmans doivent se tourner pour faire leur prière, et donc c'est la direction dans laquelle ils se prosternent. Et ils se prosternent dans la direction de la Mecque, qui en réalité la direction de la Kaaba, qui est la maison de Dieu, qui est le lieu donc qui représente, je dirais, métaphoriquement, symboliquement, la demeure de Dieu, le lieu, voilà, le lieu où demeure le divin. Et d'habitude, dans les mosquées, je vous rassure, vous n'avez pas une femme dessinée, je n'ai encore jamais vu ça, mais par contre, vous avez très souvent une représentation de la lumière. Vous avez une lampe, ou vous avez un feu qui est dessiné de manière stylisée, ou vous avez tout simplement le verset de la lumière qui est dans le Coran et qui dit « Dieu est la lumière du ciel et de la terre ». Donc, on voit le lien entre les deux. Il y a des recherches récentes qui ont montré que ce verset de la lumière, en fait, est une quasi-traduction d'une prière manichéenne persane. Et le manichéisme étant une des grandes religions de la lumière qu'ont inventé les Iraniens, qui sont champions toutes catégories en création de religion, croyez-moi, depuis le début de leur existence. En tout cas, c'est un des signes que c'est une théophanie. L'autre signe que c'est une théophanie, c'est en relation avec ce que je vous ai dit sur le parfum, c'est qu'elle est entourée de fleurs, qui sont des fleurs de jasmin ou de rose, stylisées, et ça veut dire précisément qu'elle dégage un parfum de jasmin et de rose, ça veut dire qu'elle est une présence théophanique, puisque Dieu, quand il se manifeste à l'âme éveillée, se manifeste à la fois sous une forme d'une forme de beauté et en même temps, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par une présence parfumée. Et toute la symbolique de la miniature, qui illustre en fait les histoires d'amour telles que celles qui sont racontées dans le Cantique des oiseaux, eh bien, nous pointe vers cette idée que la dame de beauté, en fait, est une théophanie. Est une théophanie, oui. Et donc, voilà, donc cette question théophanique est totalement centrale, et on va voir qu'à la fin du voyage, en fait, la résolution va se faire, en fait, par la présence théophanique. En réalité, Simorgh n'est rien d'autre que la source même de toute présence théophanique dans le monde. En tout cas, les oiseaux, donc, ils ont le souvenir de ça, ils sont complètement en émoi, ils sont éblouis par cette simple évocation de la huppe, mais ils sont lourds, ils sont dans le corps, c'est difficile. Ils voient bien que ce chemin ne va pas être une chose simple. D'ailleurs, la huppe les a prévenus, elle leur a dit « il va falloir renoncer à vous-même, il va falloir mourir à vous-même ». C'est très difficile d'accepter de mourir à soi-même, même si on a cette motivation extraordinaire de retrouver le bien-aimé divin au bout du chemin. Donc, ils vont donner un certain nombre d'excuses. Le rossignol va dire « moi, je suis amoureux de la rose, je ne peux pas partir », je ne sais pas, le canard va dire « mais moi, j'ai besoin de l'eau, de l'étang pour mes ablutions ». Ça, c'est le dévot là, qui ne peut pas sortir de ses ablutions. La perdrix va dire « ah ben non, moi je vis dans les pierres précieuses, dans mes montagnes, je ne peux pas vivre sans les pierres précieuses, alors aller traverser des déserts et tout ça, pour une hypothétique Simorgh dont je ne sais même pas si elle existe vraiment, bon, non, ça ne va pas du tout. Bon. » Chacun va donner une excuse, plus ou moins subtile d'ailleurs, il y a tous les attachements qui sont dedans, il y a l'orgueil, les attachements matériels, les attachements aux êtres que l'on aime, les attachements justement à nos amours ou à nos enfants ou à nos parents, etc. Il y a aussi, comme je vous disais, des choses plus en apparence plus spirituelles, comme justement l'attachement à la loi religieuse, à la pureté, tout ça, aux ablutions, aux prières, aux rituels, etc. Donc il y a toutes sortes d'excuses, et à chaque fois, la huppe va leur répondre. Et en réalité, le Cantique des oiseaux raconte essentiellement, c'est-à-dire que les deux tiers du texte sont composés, sont consacrés aux excuses des oiseaux et aux réponses de la huppe. Et la réponse de la huppe, c'est à chaque fois, elle va leur donner une leçon, elle va leur dire, mais, non, elle dit, mais tu es complètement égarée. Comment ça, tu es amoureux de la rose? Mais la rose, demain, elle va mourir, elle va se faner. Il faut aimer quelque chose qui soit digne d'être aimé. La simore, elle ne fanera jamais. La simore, elle est éternelle. Il faut t'arracher à ces attachements pour te consacrer à l'essentiel. Et etc., etc. Et à chaque fois, donc, elle va leur expliquer, mais l'explication sera très courte, parce que la huppe n'est pas du tout une grande théoricienne. En revanche, c'est une magistrale narratrice. Et elle ne va pas leur donner des théories, elle va leur raconter des histoires. Et Hathor nous dit, évidemment, à travers le fait que la huppe leur raconte des histoires, qu'il n'y a rien de mieux qu'une histoire pour illustrer un point spirituel et pour emporter l'adhésion de son auditoire. C'est évidemment l'idée que la narration est transformatrice. Quand on connaît des histoires, et c'est rempli d'histoires et d'anecdotes qui viennent à chaque fois illustrer, certaines sont extrêmement énigmatiques, d'autres sont connues, d'autres sont moins connues, certaines sont tirées de l'histoire religieuse, d'autres du folklore, d'autres sont carrément inventées par Hathor lui-même. Et en tout cas, elles peuvent faire 10 vers comme elles peuvent faire 150 vers. Donc ça dépend de la situation. Et à chaque fois, donc, elle leur raconte des histoires. Et d'une certaine façon, c'est aussi Hathor qui répond à nos objections en nous racontant des histoires. Parce que, à nouveau, hein, l'histoire est un lieu de manifestation de la vérité. Il y a quelque chose qui se dénoue dans l'histoire, qui permet à l'âme aussi de se dénouer de ses difficultés et de ses hésitations. Une des histoires, que je ne vais pas vous raconter en entier parce qu'elle est très très longue, mais qui est au cœur même de l'œuvre et qui va emporter définitivement l'adhésion des oiseaux, en tout cas dans un premier temps, c'est l'histoire du Sheikh San'an. Alors ce qui est important dans l'histoire du Sheikh San'an, c'est que c'est un grand maître qui vit à la Mecque, au sein des saints, qui est un grand, grand théologien musulman et en même temps un très grand mystique qui a traversé tous les degrés de la quête et qui a 400 disciples, qui a toutes sortes de miracles, enfin bref, le grand maître, quoi. Et un jour, il rêve qu'il est en train d'adorer une idole à Byzance, ce qui est une abomination pour un musulman. Mais il se réveille de ce rêve et il dit « Quelque chose doit se passer pour moi à Byzance, donc » il dit à ses disciples, nous partons pour Byzance. Il arrive à Byzance et là, il voit en haut d'un balcon une jeune fille chrétienne qui se dévoile. Vous la voyez là-haut, elle se dévoile. Vous voyez en dessous, alors le texte nous dit que c'est un balcon, alors là, ça ne ressemble pas tout à fait à un balcon, mais la miniature n'a cure de la... d'aucune forme de réalisme, parce que, évidemment, son propos est symbolique. Et qu'est-ce qui se passe? Elle se dévoile, et le cheikh tombe évanoui à cette vision. Et on a une description, que je ne vais pas vous lire maintenant, parce que ce serait trop long, mais on a une description de la beauté de la jeune fille chrétienne comme étant véritablement un lieu de manifestation théophanique. Elle est un soleil, elle est une lune qui se lève dans la nuit du cheikh, elle a tous les parfums, voilà, elle plonge tout l'Orient dans le musc de son parfum, elle a tous les attributs de la dame de beauté théophanique. Et Hathor nous montre avec précision qu'elle répond précisément à cette fonction de l'immanence. C'est-à-dire que Dieu, à un moment, doit se révéler dans une forme pour qu'on puisse en saisir, en être saisi par sa présence. Le cheikh, jusque-là, était dans la transcendance pure. Il était à la Mecque, c'était un très bon musulman qui était dans l'unicité pure. Il n'avait aucune idée de ce que c'est que l'immanence. Il était comme Adam au paradis. Il n'avait pas encore compris qu'il fallait descendre dans les ténèbres du monde, et c'est ce que représentent les cheveux de la jeune fille chrétienne, qui est une chevelure noire. Il faut descendre dans les ténèbres du monde pour pouvoir y contempler la beauté de Dieu. Et la beauté de Dieu, on ne peut la contempler que dans les formes. On ne peut pas le faire quand on est dans l'autre monde, à l'état d'âme pure. Il faut descendre dans le... C'est pour ça qu'il faut aller dans les ténèbres. C'est pour ça que l'eau de l'immortalité est aussi est dans les ténèbres. Parce qu'il faut cette traversée-là. Mais cette traversée, elle est... En même temps, les ténèbres sont illuminée par la présence de la beauté divine partout, et en particulier donc dans le visage de la jeune fille chrétienne. Comme par hasard, elle est au-dessus d'une forme qui nous rappelle celle du mihrab de tout à l'heure, de la niche de prière. Comme par hasard, dans cette niche de prière, on a une représentation du feu, de divin, de cette lumière qu'est le divin, et on voit très bien qu'elle, elle est au-dessus, donc elle est une émanation de cette lumière, exactement comme le monde était une émanation du feu de la simour solaire, et on voit donc le cheikh évanoui. Et il est le seul à être évanoui, car ses disciples, eux, ils n'ont rien compris à l'histoire. Et vous remarquerez qu'ils ne vous regardent même pas dans la bonne direction. D'ailleurs, ils comprendront rien jusqu'à la fin de ce qui arrive à leur cheikh, puisqu'ils ne comprendront pas comment un grand cheikh comme ça peut tomber amoureux d'une jeune fille chrétienne. Alors, toute l'histoire a des développements que je ne vais pas vous raconter ce soir, mais voilà, ce qui m'importait ici, c'est de montrer comment on entre en état de commotion quand on voit la beauté de Dieu manifestée dans l'immanence. Mais en même temps, on ne rentre pas en commotion. Ne rentre en commotion que celui qui a déjà travaillé sur lui, qui a fait un très très long chemin. Hathor nous dit que la vision de la beauté, c'est ce qui amène à l'amour, et que l'amour est au-dessus du bien, du mal, de la foi, de l'incroyance, est au-dessus de toute loi. La loi d'amour est au-dessus de toutes les lois. Mais encore faut-il avoir été soumis à la loi pour arriver au stade où on peut dépasser la loi. Il le précise. Il dit c'est au-dessus du bien et du mal, mais je ne dis pas ça pour dire que vous pouvez vous livrer à toutes les turpitudes que vous voulez. Ça veut dire que c'est la question du bien et du mal, c'est une question qui est faite pour là, ici et maintenant, pour avancer. Mais une fois que vous êtes entré dans l'amour, c'est plus ça la question. Et la vision, on ne peut avoir la vision que celui qui a cheminé. Et on va voir que les oiseaux, évidemment, n'auront la vision que après avoir cheminé. Quelqu'un un jour m'a posé la question, parce qu'à la fin, bon, les oiseaux doivent se jeter dans le feu. Et à l'issue d'une conférence, il y a une dame qui m'a dit « Mais pourquoi on ne se jetterait pas dans le feu tout de suite ?» Parce que justement, on ne peut pas se jeter dans le feu tout de suite. Et donc, cette question de l'immanence, elle est très importante. Et elle nous montre qu'en réalité, le monde, tout ce qui est donné dans l'immanence, est le miroir dans lequel on peut contempler la beauté éternelle. Alors justement, il y a une histoire qui illustre cela. Donc je vais vous la raconter parce que celle-là, elle n'est pas trop longue. Je vais vous la lire. Ça va peut-être vous faire penser à quelque chose. Il était une fois une reine si belle qu'elle était sans pareille parmi toutes les beautés. Le royaume du monde, son livre des secrets, sa beauté en ce monde, un signe révélé. Hathor n'emploie jamais les mots à tort et à travers. Hein. Tout est calculé. Le royaume du monde, son livre des secrets, sa beauté en ce monde, un signe révélé. Quelqu'un a-t-il jamais le courage vraiment d'abreuver son regard de sa vue ? Je ne sais. Sa renommée causait le trouble et le tumulte, la passion qu'elle suscitait débordait de tous. Tantôt sur son cheval, elle allait par les rues, un voile couleur de rose lui couvrant le visage. Mais si un malheureux regardait même ce voile, on le décapitait, tout innocent qu'il fût. Ou bien il suffisait de prononcer son nom pour avoir sur le champ la langue arrachée. Et si quelqu'un rêvait d'une union avec elle, il perdait sa raison et son âme en chimère. En un seul jour, parfois, 1000 amants rendaient l'âme, car c'est cela l'amour. Et voilà où il mène. Celui qui aurait pu voir son voile, son visage sans voile, aurait rendu le souffle lacéré de chagrin. Mourir de cet amour pour sa face de beauté valait mieux que de vivre sans vie prolongée. Mais personne ne pouvait supporter son absence. Personne ne pouvait soutenir sa présence. C'est l'absolu paradoxe. On ne peut pas s'en passer, mais on ne peut pas la regarder. Sinon, on tombe évanoui, au mieux, sinon mort. Si quelqu'un l'avait pu contempler un instant, la reine aurait montré son visage sans voile. Mais comme nul jamais ne pouvait soutenir de la voir, il restait le plaisir de l'entendre. Personne donc jamais n'était à sa hauteur, et tous ainsi mouraient le cœur gros de chagrin. Alors, la souveraine fit construire un miroir, afin que dedans lui, on pût la regarder. On fit faire un palais splendide pour la reine, et en face, un miroir qui pût la refléter. Elle s'y installa, et du haut du palais regarda le miroir qui la réfléchissait. Et dedans ce miroir brillait de mille feux son visage, dont chacun pouvait voir un reflet. Il a presque tout résumé dans cette image de la reine qui veut bien qu'on la voie, mais on ne peut pas. Quel œil humain peut soutenir cette vue-là? D'ailleurs, quand le cheikh tombe, Atoche nous dit, il tombe évanoui, foudroyé. Et c'est une référence directe au Coran à nouveau, dans lequel Moïse demande à Dieu, « Je voudrais te voir. » Dieu lui répond, « Tu ne peux pas me voir. » Moïse insiste, « Mais si, je veux te voir. Je t'ai entendu. Maintenant, je veux te voir. » Et Dieu dit, « Ben, je vais me manifester sur le Sinaï. Et si tu peux soutenir la vue de ma manifestation, alors tu pourras soutenir de me voir. » Et là, il envoie un éclair de son être sur le Sinaï. Et dit le Coran, le Sinaï en fut foudroyé. Et Moïse tomba évanoui. En fait, le Sinaï est réduit en poussière. Et Moïse tombe évanoui. Et il se rend compte qu'évidemment, il ne peut même pas soutenir un seul éclair, un seul rayon. De voir un seul rayon de la lumière divine. Par conséquent, voilà, ça dit bien ça. C'est qu'en fait, il faut qu'il se manifeste d'une manière ou d'une autre. Et même quand il se manifeste, quand on a l'œil pour voir, eh bien, ça crée un effet de saisissement. Et ça, je ne vais pas vous en parler parce que je n'aurai pas le temps. Mais voilà. Donc, la quête, donc les oiseaux vont avoir toutes les... On va plutôt aller là. Les oiseaux, donc, vont donner toutes leurs excuses, et puis la huppe va leur répondre. Et finalement, ils vont accepter de traverser les 7 vallées qu'il faut traverser avant d'arriver à la fameuse montagne de Qaf, la montagne mythique sur laquelle niche la Simurgh, la majesté souveraine du monde. Et à ce moment-là, les oiseaux... Juste avant de s'engager dans les 7 vallées, il demande à la huppe de leur décrire, en fait, ces vallées qu'il va falloir franchir. Mais je vous signale que nous sommes là au distique 3250. Il y en a 4700. Et par conséquent, on a eu quand même plus de 2000 distiques qui étaient réservés uniquement aux excuses et aux réponses aux excuses. Donc, en fait, l'histoire, c'est l'histoire des excuses. Enfin, et des réponses, évidemment, aux excuses. Et en tout cas, voilà, les oiseaux demandent ça, et voilà ce que leur dit la huppe. La huppe répondit, « Nous avons devant nous 7 vallées à franchir avant de voir le seuil. De ce chemin, personne n'est jamais revenu. Et personne ne sait quelle en est la longueur. Impatient que tu es, comment donc t'informer de ce lointain rivage dont nul n'est revenu? Insensé que tu es, tous ceux qui sont partis là-bas se sont perdus. Qui pourrait t'informer? Évidemment, la huppe. Au début, il y a la vallée du désir, puis vallée sans rivage, la vallée de l'amour. La troisième est la vallée de la connaissance, la quatrième, la vallée de la plénitude. La cinquième, la vallée de l'unicité pure, la sixième, terrifiante, et la perplexité. La septième vallée est aussi la dernière, c'est le dénuement et l'anéantissement. Après cela, tu ne pourras plus avancer. Tu seras aspiré sans pouvoir te mouvoir. L'or, pour toi, une goutte sera un océan. Et là, elle va développer, assez brièvement mais quand même, avec aussi quelques histoires, la description en fait de chaque vallée. Mais ça va être assez bref. Et le voyage en tant que tel, finalement, va être assez rapidement expédié, si je puis dire, de la part du narrateur. Et c'est ainsi que, donc, finalement, les oiseaux franchissent en quelques distiques seulement les sept vallées. Et voici ce que nous en dit Hathor de la difficulté de ce voyage. À la fin, de la troupe de tous les oiseaux, quelques-uns seulement accédèrent au seuil. Un seul sur des milliers arriva en ce lieu. Car certains se noyèrent au fond de l'océan quand d'autres se perdirent, disparus à jamais. Certains, en atteignant les plus hautes montagnes, rendirent l'âme assoiffée, submergée de douleur. Quand d'autres, transpercés par les rayons solaires, eurent les ailes brûlées et le cœur calciné. Certains furent dévorés par des fauves féroces et d'autres, dans le ciel, furent la proie des rapaces. Certains, les lèvres sèches accablées de chaleur, périrent assoiffés dans le désert aride. D'autres, désespérant de trouver une graine, rendus fous par la faim, se tuèrent sur place. Certains, trop éprouvés, restèrent en chemin. D'autres, émerveillés par tout ce qu'ils voyaient au cours de ce voyage, s'arrêtèrent en route. Certains furent absorbés par la joie des plaisirs auxquels ils s'adonnèrent, oubliant leurs désirs. Ainsi, de ces milliers d'oiseaux partis ensemble, quelques-uns seulement arrivèrent là-bas. De la nuée d'oiseaux envolés vers le ciel, 30 parvinrent au seuil, et 30 seulement. 30 oiseaux déplumés, faibles et abattus, cœur brisé, corps épuisé, l'âme envolée. De loin leur apparut, majesté souveraine, la présence au-delà des attributs, des mots. Présence qui surpasse et raison et science, présence dont l'éclair de plénitude brillait, qui brûlait chaque instant, sans monde dans son feu. Ils voyaient des milliers de soleils réunis et des milliers de lunes, d'étoiles éclatantes. Ébahis, stupéfaits, ils étaient des atomes dansant dans la lumière, ivres de ce spectacle, et se disaient entre eux, ô merveille, le soleil, face à cette présence, est un atome éteint. Alors on se dit, ça y est, ils sont arrivés au bout de leur chemin. Mais pas du tout. Ils restent là, ils se disent, enfin, on va voir Simorgh. Et là arrive un chambellan, on est à la cour du roi quand même, on est devant, au seuil du roi. Donc le chambellan arrive et leur dit, mais qu'est-ce que vous faites ici ? Dites-nous, mais nous, on est des oiseaux, on a traversé cette vallée, on est déplumés, on a traversé toutes les souffrances possibles et imaginables, on a tout donné par amour pour Simorgh, et on veut voir Simorgh. Le chambellan leur dit, voir Simorgh ? Mais pour qui vous vous prenez ? Vous croyez qu'on peut voir le roi comme ça, parce qu'on a décidé de le voir ? Mais enfin, on a souffert, vous n'avez rien fait, vous n'êtes... Vous, si vous croyez que ce que vous avez fait a une quelconque valeur, pas du tout. Retournez d'où vous venez, vous ne nous intéressez pas. Et donc le chambellan s'en va, et là, donc il leur dit, que pouvez-vous donner si ce n'est vos soupirs ? Allons, rentrez chez vous, partez, pauvre fou. Et là, à ces mots, les oiseaux tombèrent en désespoir, au point qu'ils semblaient morts et perdus pour toujours. Ils dirent tous en cœur, « Sa Majesté, Simorgh, va-t-elle nous rejeter, couvert d'ignominie ? Avilit-elle jamais aucun de ses sujets ? Venant d'elle, cela même serait un honneur. » Et là, ils comprennent qu'en fait, ils n'ont rien fait, qu'ils n'ont parcouru aucune vallée, qui sont restés au point mort, parce qu'ils ont cru qu'ils cheminaient. Et ce désespoir d'eux-mêmes, cette reconnaissance que quoi qu'on fasse, c'est rien dans le chemin de l'amour, fait que, nous dit Hathor, la grâce déjà abondante se fit surabondante. Et le chambellan revient et leur dit, « Ah, maintenant que vous ne dites plus, nous avons traversé cette vallée et que vous dites nous n'avons rien fait, maintenant vous êtes admis dans la présence de Simorgh. » Mais l'histoire ne se termine toujours pas là. Puisque les 30 oiseaux, qui en persan se dit si morg, si 30 morg oiseaux. Donc les 30 oiseaux, ça se, voilà, ça se, c'est un homonyme absolu de Simorg, font cette expérience qui vous explique pourquoi je vous raconte cette histoire dans le cadre de Dieu intime. Enfin, l'âme des 30 oiseaux s'anéantit de honte, alors le corps en poudre, ils obtinrent la vie. Purifiés de tout, détachés, libérés, ils furent vivifiés par l'éclat de sa gloire. Le lien qui les liait à l'être souverain, vous vous souvenez ? Le lien qui les liait, c'est le lien adamique, le souffle à la lumière divine qui était donnée à chacune des âmes dans sa création. Le lien qui les liait à l'être souverain en fut renouvelé. Prenant nouvelle vie, ils furent stupéfaits de nouvelles manières. Tous leurs actes passés et tous leurs manquements disparurent à jamais, effacés de leur cœur. Et là, vous avez la miséricorde en acte. Le soleil éclatant de la proximité resplendit du lointain et irradia leur être. Alors, dans le reflet de la simorgue des mondes, ils virent luminescente la face souveraine. Ils virent refléter 30 oiseaux, les simorgues. Ils virent que simorgue n'était autre qu'eux-mêmes. Que sans l'ombre d'un doute, Simorg était Simorg. Stupéfiés de se voir autres et pourtant eux-mêmes, ils ne savaient plus quoi avant d'être cela. Et pendant un long passage, ils s'interrogent, ils disent, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Elle est Simorg et pourtant elle est nous. Et c'est pas nous, mais c'est elle, et c'est pas elle, et c'est elle. Donc ils comprennent pas ce secret, cette énigme extraordinaire. Ils croyaient avoir voyagé vers un être qui était en dehors d'eux, et d'un coup, ils voient que cet être, c'était eux. Ils demandèrent la clé de ce... Ne pouvant rien comprendre, les oiseaux hébétés, sans user de la langue, interrogèrent Simorg. Ils demandèrent, alors sans user de la langue, parce qu'évidemment, ils parlent le langage des oiseaux, le langage de l'âme, pour lequel il n'y a pas de mots. Sauf quand Hathor trouve les mots. Ils demandèrent la clé de ce puissant mystère et la résolution de ce toi qui est nous. Sa Majesté Simorg leur dit, mais sans parler, évidemment, puisqu'elle parle aussi le langage des oiseaux, le soleil de la Majesté est un miroir. Celui qui vient à elle ne peut voir que lui-même. Il se voit corps et âme tout entier reflétés. Vous êtes venus 30, et c'est aussi pourquoi ce miroir vous renvoie l'image de 30 oiseaux. Quand vous seriez venu à 40 ou 50, vous n'auriez pu lever ce voile que sur vous-même. Vous avez cherché l'autre en cheminant longtemps. Vous ne voyez pourtant que vous, vous seulement. Car quel regard jamais peut atteindre où nous sommes ? La vue d'une fourmi peut-elle voir les Pléiades ? Avez-vous jamais vu de par le vaste monde une pauvre fourmi se saisir d'une enclume ou bien un moucheron happer un éléphant ? Tout ce que vous saviez à cette vue n'est plus. Ce que vous avez dit ou entendu non plus. Vous avez traversé les 7 hautes vallées et vous avez fait preuve d'un courage viril. Pourtant, c'est dans mes œuvres que vous cheminiez. Vous n'avez que rêvé la vallée de l'essence. Vous vous êtes endormi au creux des attributs. Vous voilà 30 oiseaux hébétés, perplexes, aux cœurs énamourés, impatients et sans vie. Mais moi, je suis la seule véritable Simorg. Je suis la pure essence de l'oiseau souverain. Il vous faut maintenant, dans la grâce et la joie, annihiler votre être tout entier en moi, afin de vous trouver vous-même dedans moi. Ça veut dire qu'en fait, ils ne sont encore qu'au début du chemin. Ils ne sont encore qu'en train de se voir eux-mêmes. Mais peut-être parce qu'il n'y a pas d'autre moyen. Et c'est ce que je vous disais au début quand je vous ai parlé d'Adam. On ne peut pas voir Dieu autrement que dans soi-même. Ce n'est pas possible autrement. Et en même temps, c'est ce que dit la Simon, une fois que vous avez compris ça, cette vérité, Vous vous souvenez que la Huppe a dit, il y a sept vallées, et puis après, il faut être aspiré. Et ils sont à ce stade-là. C'est-à-dire qu'ils arrivent au bout de cette vallée, ils sont encore eux-mêmes. Et ils sont au seuil de l'anéantissement total. Et la clé, c'est de renoncer à voir, à entendre, à comprendre, à se voir séparer et devenir comme le Halloj dont je vous ai parlé au début, c'est-à-dire entrer dans le tout unifié. Et comme par hasard, à cet endroit du récit, Hathor nous raconte l'histoire de Halloj. Récit dans le récit, l'histoire dont je vous ai parlé, le fait qu'il disait « je suis le vrai » et qu'il a été tué pour cela. C'est-à-dire qu'il est entré dans le feu de la fusion. Et donc les oiseaux font ce que leur dit Simor. Évidemment, à ce stade, on ne peut plus que faire ce que leur dit Simor. Ils s'annihilèrent donc cette fois pour toujours, et l'ombre disparut dans le soleil, enfin. Pendant qu'ils cheminaient, la parole régnait. Une fois le but éteint, une fois le but atteint, il ne resta plus rien. Ni début, ni fin, ni guide, ni chemin. Et c'est pourquoi ici, prétend Hathor, la parole s'éteint. On ne peut pas dire ce qui arrive à ce stade. Et pourtant, c'est à cet endroit précis qu'il raconte l'histoire de Halloj. On ne peut pas le dire, mais on ne peut quand même pas s'empêcher de le dire. Quand on est poète et quand on est Hathor. Et il s'en expliquera à la fin. Il dira en fait, combien de fois j'ai dit à mon cœur, mais tais-toi, tu ne peux pas dire ces choses. Et mon cœur me dit, mais si je ne dis pas, je vais mourir. Ça déborde de moi. Cette chose, cet amour, cette vision, cette lumière, si je ne la dis pas, je vais mourir dans mon propre sang. Et donc, c'est quelque chose qui déborde. Et c'est exactement ce qui arrive avec Halloj. Halloj, il fait partie de ces grands mystiques extatiques. Il aurait bien aimé se taire, mais il ne peut pas se taire. Quand on fait cette expérience, il y a quelque chose qui se brise dans l'être et d'un coup, la parole extatique déborde. Et on ne peut que témoigner de cette présence au plus intime de soi du divin. Mais ce qui est très intéressant, et je terminerai là-dessus, c'est que Hathor nous dit, oui, la parole s'éteint, ils partent, c'est l'extinction, disons. Et il ajoute, puis, je vous rappelle que les oiseaux sont jetés dans le feu, ils sont morts, ils n'existent plus. Enfin, ou ils existent sous une forme encore plus intense. Puis, quand 100 000 siècles se furent écoulés, des siècles hors du temps, sans avant ni après, les oiseaux qui avaient embrassé le néant furent rétablis à l'être par l'effet de sa grâce. Et comme tous étaient sans eux et pleins d'eux-mêmes, tous, après le néant, furent rendus à eux-mêmes. Tous redoublèrent d'être dans l'étang éternel. Mais personne jamais ne put ni ne pourra parler de ce néant, ni dire cet étang. De même qu'il est, lui, loin de toute vision, de même, cet état est éloigné du dire. Pourtant, mes compagnons veulent l'allégorie qui pourrait rendre compte de cet étang indicible. Mais cela, je ne peux m'en expliquer ici. Il faudrait pour cela écrire un autre livre.